très bonne question pour vous. Est-ce que les nations pourront résister quand Dieu les jugera à la fin des temps? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui en fera réfléchir plusieurs. Aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions au menu aujourd'hui, alors allons-y sans plus tarder. Est-ce que les juges sont des instruments de Dieu? Est-ce que les juges rejettent la loi de Dieu de nos jours? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que les juges représentent Dieu? Est-ce que les parents représentent Dieu? Est-ce que les ennemis de Dieu complotent contre le peuple d'Israël et contre l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que les nations pourront résister quand Dieu les jugera à la fin des temps? Est-il important de passer du temps régulièrement avec nos frères et sœurs dans la foi? Est-il important de développer une relation intime avec Dieu? L'Église doit-elle être le centre de notre vie sociale? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner le conseil de Dieu en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on va recevoir ton conseil, tes instructions, tes commandements. Aide-nous à être attentifs et donne-nous des cœurs obéissants pour mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Parle à nos cœurs, mon Dieu. On a besoin de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous examinons premièrement le psaume 82. Quelqu'un qui ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ va certainement rire de ce psaume. Nous voyons le Seigneur Jésus dans sa gloire qui jugera les peuples de toute la terre. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 82, verset 1er. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux? Mais qui sont ces dieux? Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Dieu appelle les juges Dieu parce qu'il juge en son nom. En quelque sorte, ils représentent Dieu, surtout s'ils exercent les fonctions de juge au sein de l'Église. Mais les magistrats civils sont des instruments de Dieu pour préserver l'ordre social et la justice. Les juges devront rendre des comptes à Dieu. Les juges qui abusent de leur position et qui ne rendent pas justice au peuple rendront des comptes à Dieu. Malheur aux juges qui acceptent des pots de vin des injustes et qui corrompent la justice. Écoutez ce texte, tiré de l'apôtre Paul, l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 1er. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre eux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Poursuivons le psaume 82, versets 3 et 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Dieu dit aux juges de faire justice aux faibles et à l'orphelin. Il arrive souvent que les juges et le système judiciaire collaborent avec ceux qui exploitent les pauvres. Un jour, ils devront rendre des comptes à Dieu. Être juge requiert de la sagesse, une connaissance de la vérité, du courage, de la maîtrise de soi, de la patience et un sens de la justice. Ce n'est pas une mince tâche, et c'est pourquoi Dieu nous exhorte à prier pour eux, entre autres, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. parce que c'est Dieu qui les a placés là. Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Romains chapitre 13, les versets 1 à 5. Poursuivons la lecture du psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Rejeter la loi de Dieu a des conséquences néfastes. Aujourd'hui, peu de juges croient à la Bible. C'est aussi le cas de nos députés et de nos ministres. Les lois ne tiennent plus compte des principes de justice que Dieu a énoncés dans sa parole. Si vous allez sur le site du gouvernement fédéral, ainsi que sur le site du gouvernement provincial, et si vous examinez les rapports de comités concernant les lois au sujet de la famille, vous percevrez que les politiciens sont dépassés et même impuissants devant les problèmes. La raison de ceci est simple. La loi de Dieu est complètement mise de côté dans notre société. Personne ne sait comment résoudre les problèmes sociaux qui résultent de la dévalorisation de la famille traditionnelle. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jésus est Dieu. Que veut dire l'expression « vous êtes des dieux » Le Seigneur Jésus lui-même a cité ce verset lorsque les Juifs ont contesté sa divinité. Ils l'ont accusé de blasphème parce qu'il se faisait Dieu. Dans l'Évangile de Jean, nous lisons. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » Et parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Jean chapitre 10, verset 33-37. Les juges représentent Dieu. Jésus disait aux Juifs qu'ils se sont faits juges, et lorsque nous nous faisons juges, nous prenons la place de Dieu. De nombreux chrétiens sont coupables de faire cela. Ils condamnent les autres chrétiens. L'apôtre Paul a dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 5. Paul dit que Dieu le jugera un jour, donc il ne se juge pas lui-même. Mes amis, lorsque vous jugez, vous parlez au nom de Dieu, et vous vous faites Dieu, si vous avez pris le rôle de juge. Ce serait merveilleux si les juges de notre pays craignaient tous Dieu. Les parents aussi représentent Dieu. Chaque fois que nous jugeons une personne, nous nous mettons à la place de Dieu. Les parents devraient être conscients de cela. Que dit Dieu à l'enfant qui grandit dans un foyer? Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 20. Mais qu'en est-il si les parents ne lui enseignent pas les bonnes voies comme ils le devraient? De nombreux parents font cela aujourd'hui. Dieu dit, « Je les tiendrai responsables puisque les parents me représentent auprès des enfants. Ils occupent cette position parce que j'ai dit au petit garçon, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Proverbe, chapitre 1, verset 8. Que Dieu ait pitié du père et de la mère qui n'auront pas élevé leurs enfants dans les voies de Dieu. Que peut-il y avoir de pire qu'aller en enfer? Un prédicateur a répondu ainsi. Aller en enfer et reconnaître la voix de son fils et lui demander « Mon fils, que fais-tu ici ?» et entendre le fils répondre « Papa, je t'ai suivi. » Les juges ne doivent pas prendre leur rôle à la légère. Dieu leur dit « Rendez des décisions justes. Vous êtes des dieux qui parlez en mon nom et vous me rendrez des comptes un jour. » Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu rappelle aux juges qu'ils sont des êtres humains mortels et qu'un jour, ils comparaîtront devant lui. Verset 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Nous pouvons tous faire cette prière. Maintenant, le psaume 83 est le dernier psaume de la série d'Asaph. Il est difficile de le situer exactement dans l'histoire d'Israël. Ce psaume est une prière imprécatoire, un cri pour obtenir justice. Le psalmiste prie afin que Dieu délivre son peuple de ses ennemis. Débutons notre lecture, chers amis. Le psaume 83 et versets 1 à 3. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Les ennemis de Dieu s'en prennent toujours à son peuple. Qu'importe qui est cet ennemi, il n'aime pas Dieu. Il haït Dieu. C'est toujours le cas avec les ennemis de Dieu. Israël, ainsi que l'Église, n'ont jamais trouvé d'aide extérieure ni trouvé la force de se défendre eux-mêmes. Ils ont toujours dû se tourner vers Dieu. Versets 4 et 5. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Les ennemis de Dieu ont souvent comploté contre Israël et contre l'Église au cours de l'histoire. C'est ainsi que les ennemis de Dieu expriment la haine qu'ils ont envers lui. Si toutes les tentatives de détruire Israël ou l'Église avaient été faites contre une autre institution humaine ou même une nation, il y a longtemps que celle-ci n'existerait plus. Versets 6 à 9. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Kébal, Hamon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Pause. Ces événements se sont probablement produits lorsque l'Assyrie a pris le royaume du Nord et a tenté de conquérir celui de Juda. L'Assyrie aurait cherché des alliances avec les pays entourant Juda. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, accorde une saveur prophétique à ce texte. Il place tout cela dans l'avenir et il pense que les nations mentionnées reviendront en existence. Les ennemis de Dieu sont disposés à s'unir contre l'Église. Si les ennemis de Dieu sont disposés à s'unir pour exterminer son Église, les chrétiens fidèles à Dieu ne devraient-ils pas la défendre d'un même cœur et d'une même âme? Comme les apôtres, Paul, Pierre, Barnabas se sont unis pour prêcher l'Évangile fidèlement, ne devrions-nous pas en faire autant? Des gens qui sont ennemis et qui ne se font pas confiance sont prêts à s'unir contre l'Église. Nous avons l'exemple de Hérode et Pilate qui sont devenus amis après la condamnation injuste de Jésus. 10 nations se sont unies contre Israël. La différence d'âge, de nationalité, de loi et de culture n'empêche pas les ennemis de Dieu de s'allier contre son Église. Nous trouvons des hypocrites parmi les adversaires de Dieu, les Édomites, les Ismaélites, les Moabites et les Ammonites avaient un lien de parenté avec le peuple de Dieu. Ce fut toujours ainsi au cours de l'histoire. Lorsque l'armée du salut s'est formée, elle fut persécutée le plus fortement par d'autres églises. Versets 10 et 11. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Oui, chers amis, Dieu jugera les nations. Nous lisons au sujet de ces nations dans le livre des Juges. Certains affirment que Dieu ne jugera plus personne ainsi dans l'avenir. Le croyez-vous vraiment? Dieu est immuable, chers amis. Il a jugé le péché dans le passé et il le fera encore dans l'avenir. Dieu nous demande de prier pour nos ennemis et de leur prêcher l'Évangile afin qu'ils se tournent vers Dieu. Cependant, un jour, il reviendra juger les nations, toutes les nations. Verset 14. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent. Le grain est facilement écrasé par la meule. Personne ne pourra résister à Dieu. Personne, même pas une nation, n'a la puissance pour le faire. Verset 15 du psaume 83. Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Il est parfois impossible d'éteindre un feu de forêt malgré notre technologie moderne. Il y a quelques années, c'est l'hiver et la neige qui ont étouffé un énorme feu de forêt dans l'Ouest canadien. Et les spécialistes craignaient que le feu reprenne au printemps. Combien plus était-il impossible de maîtriser un feu à cette époque? Personne ne résistera à Dieu lorsqu'il jugera les nations à la fin des temps. Verset 19. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Ce n'est que lorsque Dieu jugera finalement le monde que celui-ci reconnaîtra qu'il est Dieu. La bonté de Dieu devrait nous amener à la repentance, mais elle ne le fait pas. Si les humains étaient sensibles à la présence de Dieu, ils se retrouveraient en sa présence. Aujourd'hui, nous sommes dans une société affluente et matérialiste. Nous pensons ne pas avoir besoin de Dieu. Maintenant, le psaume 84 met l'accent sur le sanctuaire où servent les Lévites. C'est un psaume des fils de Corée. Les fils de Corée ont servi dans le tabernacle et plus tard au temple. Dans les chroniques, nous lisons. Voici les classes des portiers, des Coréites, des Meshelimia, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaph. 1 Chronique, chapitre 26, verset 1er. Le verset est suivi d'une longue liste de la famille de Corée. Cet homme avait formé une rébellion contre Moïse, il fut jugé pour cela. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, des descendants de Corée servent au temple de Dieu. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. 1 Chronique, chapitre 26, versets 12 et 13. Un homme était assigné à chaque porte. Les postes étaient tirés au sort. Des Lévites gardèrent l'entrée du tabernacle ainsi que les portes du temple. Chers amis, débutons la lecture du psaume 84, versets 1 à 3. Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Aimez-vous être avec vos frères et sœurs dans la foi? il n'y a pas beaucoup de communion fraternelle dans certaines églises aujourd'hui. Cependant, les églises sont les endroits pour avoir de la communion fraternelle. Il y a beaucoup de bonnes églises à travers le pays. J'espère qu'il y en a une qui enseigne fidèlement la parole et qu'on y exalte le Seigneur dans votre quartier ou votre ville. S'il y en a une, c'est là que vous devriez être. C'est là que vous croîtrez spirituellement et que vous serez bénis. L'apôtre Paul connaissait cette vérité et, dans la plupart de ses lettres, il exhorte les croyants à demeurer ensemble, demeurer unis par la parole et par l'Esprit de Dieu. Le verset suivant est touchant. Le psaume 84, verset 4. Le passereau même trouve une maison, et les rondelles un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Cherchez surtout à développer une relation intime avec Dieu. Dieu pourvoit aux besoins du passereau et de l'hirondelle. Combien plus pourvoira-t-il aux nôtres? Ces oiseaux ne peuvent pas avoir de relation intime avec Dieu, mais celui-ci pourvoit à leurs besoins. Mes amis, ne vous contentez pas de fréquenter une église et de profiter de certains privilèges. Cherchez, premièrement, surtout, à développer une relation intime avec Dieu et apprenez à le servir. Et s'il arrive que vous soyez isolé de toute église, alors ces oiseaux démontrent que Dieu peut pourvoir à vos besoins. Cherchez à comprendre comment Dieu veut que vous le serviez dans toutes circonstances. Verset 10 du psaume 84. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. L'Église est-elle le centre de votre vie sociale et religieuse? Le psalmiste pouvait s'exclamer, « Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu! » Dieu est vraiment un bouclier pour les siens. Et regarde la face de ton oint. L'oint, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le choisi de Dieu, qui nous a montré la face de Dieu sur terre. Le sanctuaire était le centre de la vie en Israël. Les églises ont déjà été le centre de la vie sociale. Elles devraient l'être encore. L'église est-elle le centre de votre vie sociale et religieuse? Éphésiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit, « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité qui a créé toute chose. L'Église est la révélation du grand mystère de Dieu, de sa personne, de ses attributs, de son œuvre, de l'être qu'il est. L'Église devrait être le centre de notre vie. Verset 11. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Ce verset condamne plusieurs d'entre nous. Que préfériez-vous? Être riche et loin de Dieu ou avoir un emploi modeste et marcher avec Dieu? Des gens regardent leur montre si le pasteur parle trop longtemps le dimanche matin. N'aimez-vous pas être dans la maison de Dieu? Ce psaume est vraiment glorieux. Vivons avec les principes de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant et méditant les psaumes 85 à 88.
Merci, Réjean. Mes amis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, aimez-vous passer du temps avec vos frères et sœurs dans la foi? Réjean a abordé ce sujet-là aujourd'hui et ça m'a rappelé mes premières années à l'Évangile, les années qui ont suivi ma conversion. À cette époque, je suis devenu membre d'une petite église qui avait vraiment une ambiance très familiale. À presque chaque fin de semaine, les membres, même ceux qui habitaient à plusieurs kilomètres de l'église, trouvaient le moyen de se rendre près du lieu où on avait nos réunions. Et cet endroit était en campagne, on y faisait des pique-niques, des épluchettes, des barbecues et toutes sortes de fêtes, parfois au sous-sol du bâtiment quand il faisait moins beau. Et on passait des heures à chanter des cantiques, à partager l'Évangile, à raconter notre vécu avant et surtout après notre conversion. Quelle joie! Et notre pasteur nous enseignait la parole de Dieu, même en dehors des réunions du dimanche matin et du mercredi soir. Alors, c'était mes premières années dans les voies de Dieu. Mais le Seigneur m'a graduellement conduite ailleurs, afin que je puisse grandir davantage et pour que je puisse exercer des ministères au niveau de l'évangélisation et de la louange. Et je lui en suis bien reconnaissante. Mais ce qui me donne beaucoup de joie depuis quelques années, c'est que je suis membre d'une église qui se réunit à tous les dimanches en grande assemblée pour louer Dieu et recevoir une bonne nourriture spirituelle. Mais ce qu'il y a de particulier à cette église, c'est que sur semaine, on se réunit par petits groupes dans des maisons où on peut réellement vivre les valeurs chrétiennes. Nous faisons 5 choses que nous considérons comme étant bien importantes dans ces petits groupes. On chante des louanges, on partage l'Évangile, et on forme des projets pour répandre l'Évangile parmi ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et on prend soin les uns des autres. Et bien sûr, on prie ensemble. Si on lit le livre des Actes, on peut voir que ça se passait comme ça dans le temps des apôtres. Quelle joie pour moi d'aller rejoindre mes frères et sœurs dans cette mini-famille qui fait partie de la grande famille de Dieu. Régent nous a demandé aujourd'hui si l'Église était le centre de notre vie sociale et religieuse. Eh bien, je peux dire que oui. Et je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé dans une telle église, une église où ça sent bon. Je parle de la bonne odeur de Jésus-Christ, bien sûr. Régent a aussi parlé d'une personne qui disait qu'elle prenait des vacances du Seigneur. C'est vraiment horrible de penser comme ça. Les vacances sont importantes, mais si je devais partir sans le Seigneur, je serais bien malheureuse. J'aime plutôt voir les vacances comme un moyen de me reposer, de me ressourcer, afin de mieux servir le Seigneur. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, aimes-tu la compagnie de tes frères et sœurs en Jésus-Christ? Je te le souhaite. Dans le psaume 133, au premier verset, il est écrit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et il se termine au verset 3b, où il est écrit « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est vrai que c'est doux d'être ensemble, à partager l'Évangile, à partager les choses que Dieu nous a montrées au courant de la semaine, dans sa parole, l'application qu'il a donnée dans notre vie. Et c'est bon de chanter des louanges ensemble, de dire à Dieu ensemble combien on l'aime, combien il est merveilleux, combien il est grand et digne de louange. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.